Vous écoutez France Culture, c'est l'heure du journal de 12h30 par Thomas Larabi.
Bonjour à tous. Alors que les hospitalisations pour cause de coronavirus repartent à la hausse en France, les services d'urgence sont toujours en colère. Les grèves et les démissions se multiplient pour alerter sur le manque de moyens et surtout le manque de lits. Reportage à Saint-Brieuc au début de ce journal. Le Covid-19 qui fait de la casse sociale. En Angleterre, 7000 salariés vont perdre leur emploi. Chez Marks & Spencer, c'est près d'un dixième des effectifs. Nous serons avec Maxence Peignet à Londres. Rien ne prouve l'implication de la direction du Hezbollah dans l'assassinat de Rafik Hariri. Déclaration à la haie du juge du tribunal spécial pour le Liban. Le verdict est rendu aujourd'hui sur l'assassinat de l'ancien premier ministre libanais en 2005. Nous retrouverons Aurélien Colli qui suit la séance. Et puis pour la première fois, des pilotes militaires israéliens et allemands vont s'exercer ensemble pendant une semaine en Allemagne, avec aujourd'hui une cérémonie dans le camp de Dachau où ont péri les ancêtres de certains pilotes israéliens. Explication de Frédéric Mettezo depuis Jérusalem. Le masque va-t-il devenir obligatoire en entreprise? Une réunion se tient en ce moment même à ce sujet au ministère du Travail avec autour de la table les partenaires sociaux. Les discussions tournent autour du télétravail et donc du port du masque en entreprise. Le gouvernement envisage de le rendre obligatoire quand les syndicats patronaux demandent de la souplesse, du cas par cas. Preuve de l'importance de ce sujet, un quart des nouveaux clusters apparaissent en entreprise selon les derniers chiffres de Santé publique France. Et au-delà des clusters et du nombre de cas détectés, c'est le nombre de personnes hospitalisées en réanimation du fait du Covid-19 qui est en hausse en France depuis hier. Près de 5000 personnes atteintes du coronavirus sont actuellement à l'hôpital. Un hôpital toujours pas débarrassé de son manque de moyens mis en lumière par l'épidémie. À Saint-Brieuc, les médecins urgentistes de l'hôpital ont déposé un préavis de grève illimité à compter de demain. Ils réclament 30 lits supplémentaires pour répondre à l'afflux de patients cet été aux urgences. Et puis partout en France, depuis plusieurs mois, c'est les démissions qui se succèdent et qui se multiplient dans les services d'urgence, notamment à Boulogne-sur-Mer, Margot Siffert.
Avec une revendication principale qui est restée la même, obtenir la reconnaissance de la spécificité de leur travail, un travail pénible, avec des gardes jusqu'à 24 heures d'affilée, une disponibilité au quotidien, nuit, week-end et jours fériés inclus. S'ajoute à cela un nombre de passages aux urgences qui augmente chaque année de 3,5% en moyenne, une tendance lourde depuis plus de 20 ans. Cette hausse est expliquée en partie par la suppression de lits dans d'autres services. En 20 ans, 100 000 lits ont notamment disparu. C'est ce que dénonce l'Association des médecins urgentistes de France. De telles conditions de travail ont donc poussé de nombreux médecins à démissionner. Le dernier exemple en date, l'hôpital Duchesne à Boulogne-sur-Mer, où le service mobile des urgences et de réanimation, le SMUR, a même été contraint de fermer plusieurs jours. Grégory Duncan est délégué des médecins urgentistes du Pas-de-Calais.
Nous, on était très épargnés. Il y a 3-4 ans, en étant sur-effectifs, en passant sous-effectifs critiques, puisque avec l'activité qu'on a au service des urgences, où normalement on a 3 tours de garde 24 heures sur 24, on devrait être au minimum 18 et on est tombé à 10 ou 11 équivalents temps plein en moins d'un an en fait. Avec récemment également 2 arrêts maladie pour surmenage. On ne peut même plus assurer la mission première d'un médecin urgentiste, c'est-à-dire le SMUR. Mathématiquement, on ne pouvait même plus remplir le planning. J'ai écourté mes vacances pour permettre au SMUR de tourner. Donc on a fait ça, mais officiellement oui, le 9 août, j'ai appelé SAMUR en disant « bah écoutez, le SMUR, cette nuit, ne tourne pas ».
Une situation critique qui s'ajoute à la déception des urgentistes après les résultats jugés décevants du Ségur de la Santé. L'Association des médecins urgentistes de France regrette notamment l'absence de revalorisation pour les gardes et le temps de travail additionnel. De quoi faire fuir encore un peu plus les praticiens vers l'intérim ou la médecine de ville.
Un reportage de Margot Siffer. Et on l'apprend à l'instant, le port du masque devient obligatoire en entreprise, sauf dans les bureaux individuels. C'est la ministre du Travail, Elisabeth Borne, qui vient de l'annoncer à la sortie de la réunion avec les partenaires sociaux. La casse sociale liée au Covid-19 qui n'épargne pas la Grande-Bretagne. La chaîne britannique de distribution Marks & Spencer va supprimer 7000 postes dans les 3 prochains mois. C'est près d'un dixième des effectifs. La raison avancée, l'impact de la pandémie et une baisse de fréquentation des magasins. Marks & Spencer assure que ces réductions d'effectifs ne se feront surtout sur une base volontaire ou par des départs anticipés à la retraite. Précision depuis Londres de Maxence Peignet.
Les nouvelles économiques se suivent et se ressemblent au Royaume-Uni, qui connaît sa pire récession jamais enregistrée. Dans le sillage de plusieurs grandes entreprises britanniques, le géant de la distribution Marks & Spencer va supprimer 7000 emplois en seulement 3 mois. Le groupe, fort de 80 000 salariés à travers le monde, peine à se remettre du confinement et de l'impact de la pandémie. Malgré la réouverture de ses enseignes, son chiffre d'activité a dégringolé de 10% entre juin et août. Il faut dire que sa branche habillement est en difficulté depuis des années, et la direction cherche à opérer un virage vers la vente en ligne. Cet été outre-Manche, les faillites dans la restauration s'accumulent et de grandes chaînes de magasins comme Boots et John Lewis ont déjà prévu des milliers de licenciements. Ces annonces assombrissent un peu plus le futur de l'économie britannique, d'autant plus qu'à compter de fin octobre, les entreprises ne devraient plus pouvoir compter sur le dispositif de chômage partiel qui bénéficiait à presque 10 millions de salariés.
Maxence Peignet à Londres. Rien ne prouve l'implication de la direction du Hezbollah dans l'assassinat de Rafik Hariri. Déclaration à la haie du juge du tribunal spécial pour le Liban. Le verdict est en train d'être rendu sur l'assassinat de l'ancien premier ministre libanais Rafik Hariri. 4 hommes, tous membres présumés du mouvement chiite Hezbollah, sont accusés d'avoir participé en février 2005 à un attentat visant l'homme d'État. 21 autres personnes sont décédées dans l'explosion ce jour-là. Mais ces suspects ne sont pas là. Le Hezbollah n'a pas voulu les livrer. Le Hezbollah qui refuse d'ailleurs de reconnaître la compétence de ce tribunal. On retrouve Aurélien Colli à Beyrouth. Aurélien, vous suivez actuellement l'audience qui a commencé vers 11h et le verdict qui tombe en ce moment même.
Oui, le juge a repris tout le déroulé de l'enquête ce matin de ce tribunal spécial créé par l'ONU en 2007. Il est revenu sur cette journée du 14 février 2005 sur les différents individus identifiés derrière des téléphones portables utilisés pour surveiller les déplacements de Rafik Hariri et pour déclencher l'explosion de 2 tonnes d'explosifs dans une camionnette au passage de son convoi. 5 individus étaient dans le viseur du tribunal, mais 4 seulement sont jugés. Mustapha Badreddine, considéré comme le cerveau de l'attentat, est mort en Syrie en 2016 dans des circonstances mystérieuses. C'était l'ancien chef militaire du Hezbollah. Il n'est pas jugé. Ils sont donc 4 aujourd'hui jugés. Salim Ayash, accusé d'avoir dirigé l'équipe qui a exécuté l'attentat, d'être aussi derrière d'autres attentats qui ont visé des personnalités libanaises opposées à la présence syrienne à l'époque. Lui, ainsi que 3 complices, Hussein Onessi, Assad Sabra et Hassan Habib Meri. Alors si la condamnation de ces 4 individus fait peu de doute aujourd'hui, les chances qu'ils soient arrêtés sont infimes. Depuis 2011, le Hezbollah, dont ils sont au mieux supporters, au pire des membres actifs, rejette la compétence du tribunal spécial. Il accuse le TSL d'être politisé à la solde d'Israël. L'enquête d'être truquée. Vendredi dernier, le chef du Hezbollah a encore répété qu'il n'était pas concerné par ce verdict. Ce sera comme si la décision n'avait pas été annoncée. C'est ce qu'avait déclaré Hassan Nasrallah en indiquant qu'il s'attendait à des condamnations injustes. Et ce matin, vous le disiez, dans le début de la lecture du verdict, le tribunal a estimé que rien ne prouvait pour l'instant une implication directe de la direction du Hezbollah et même de celle du gouvernement syrien dans cet attentat. C'est une thèse qui avait aussi été soulevée en 2005.
Les précisions d'Aurélien Colli à Beyrouth. Alexandre Loukachenko, toujours plus sous pression en Biélorussie. Le président a été chahuté hier soir dans une usine en grève. Loukachenko, dont la réaction est fortement contestée, il s'est pour la première fois dit prêt à organiser une nouvelle élection, mais après l'adoption d'une nouvelle constitution par référendum. L'homme au pouvoir depuis 26 ans en Biélorussie vit peut-être ses derniers jours à la tête de son pays. 26 ans d'autoritarisme et de soviétisation, Éric Biégalin.
Oui, la première chose qu'il fait quand il arrive au pouvoir au printemps 94, c'est de revenir sur toutes les réformes quelque peu libérales entreprises dans le pays depuis son indépendance 3 ans plus tôt. En bref, il re-soviétise l'économie de la Biélorussie. La plupart des entreprises de l'industrie lourde à l'agriculture en passant par les services sont nationalisées et subventionnées par l'État. Pour que le tout fonctionne, Loukachenko s'appuie sur une source simple et unique, les hydrocarbures russes. Le pays reçoit gaz et pétrole russe qu'il revend ensuite aux Européens modulo une large marge bénéficiaire. Et ça fonctionne. Le plein emploi est assuré en Biélorussie et le pays connaît même une sorte de boom économique jusqu'en 2010. Loukachenko bénéficie jusqu'à cette époque d'une indéniable popularité. Il s'en sert pour rogner peu à peu les libertés publiques et les quelques contre-pouvoirs qui existaient. Par référendum, il amende les prérogatives du Parlement, change la Constitution pour élargir son autorité comme chef de l'État ou allonger la durée de son mandat. Les médias indépendants sont rapidement muselés, les médias d'État sont à sa botte, l'opposition politique libérale n'a plus vraiment de droit de cité. Les manifestations sont réprimées, quelques députés d'opposition disparaissent même, corps et âme. Loukachenko s'appuie pour ce faire sur un appareil sécuritaire hérité de l'Union soviétique et dont il n'a même pas changé le nom. C'est le dernier endroit au monde où le KGB est encore actif et où le citoyen lambda peut être verbalisé au titre d'une loi dite « contre les parasites sociaux ». En clair, s'il est sans emploi. Avant le scrutin de 2020, et prévenu cette fois que sa popularité était en chute libre, Loukachenko a interdit de concourir et embastiller ses trois opposants principaux. Ce sont leurs épouses ou collaboratrices qui ont concouru à leur place dimanche dernier. Il a démis son propre gouvernement, remplacé deux mois avant le scrutin par un cabinet quasiment entièrement constitué de siloviki, les agents du KGB ou des services de sécurité dont la compétence en matière d'administration publique se limite à leur loyauté pour Batka, le père, comme Loukachenko aime à être surnommé. Tout ça, y compris la fraude massive dans le scrutin du 9 août, tout ça n'a pas suffi. Loukachenko a aujourd'hui perdu toute légitimité, toute crédibilité et tout soutien, mis à part peut-être du côté du Kremlin de Vladimir Poutine.
Les précisions d'Éric Biegala. Un symbole fort en Allemagne, l'armée de l'air israélienne a entamé cette semaine des entraînements outre-Rhin. Les chasseurs allemands et israéliens participeront ensuite jusqu'au 28 août à des exercices conjoints. Une grande première sur le territoire allemand, marquée aujourd'hui par des commémorations. Un hommage d'abord aux victimes de la prise d'otage lors des Jeux Olympiques de Munich en 1972 par le groupe palestinien Septembre Noir. Puis un hommage aux victimes du camp de concentration de Dachau. Parmi les pilotes israéliens, on trouve plusieurs descendants de victimes de la Shoah, dont certaines sont passées par ce camp de Dachau. À Jérusalem, Frédéric Mettezo.
Hier, et pour la première fois, des avions militaires israéliens ont survolé l'Allemagne, salués par le chef d'état-major de la Luftwaffe, venu voler à leur côté.
It is an honor to welcome the Israeli Air Force entering German airspace for the first time in history.
Tout à l'heure, à 15h, des avions de chasse allemands et israéliens survoleront Munich, 48 ans jour pour jour après l'assassinat de 11 athlètes israéliens par un commando palestinien pendant les Jeux Olympiques. Ce sont les ailes du souvenir, écrit le quotidien. Yediot Ahronot, le plus vendu en Israël, car l'escadrille doit aussi survoler Dachau, à quelques kilomètres de là, le premier camp de concentration ouvert dès l'arrivée des nazis au pouvoir. Au sol, un pilote de l'armée israélienne prendra la parole lors d'une cérémonie. Son grand-père était un rescapé de la Shoah. Militairement parlant, les pilotes des deux pays espèrent apprendre beaucoup les uns des autres. Diplomatiquement, ces exercices prouvent que l'Allemagne reste le pays européen le plus proche d'Israël, même si les actes antisémites ont augmenté en Allemagne. Début juillet, une unité des forces spéciales allemandes a même été dissoute car elle était gangrénée par l'extrême droite. A l'inverse, au mois de mai, le Parlement allemand a voté à l'unanimité le retour d'un rabbin aumônier dans l'armée. Il n'y en avait plus depuis 1933. Il y a environ 300 soldats de confession juive dans l'armée allemande aujourd'hui. Ils étaient 100 000 durant la Première Guerre mondiale.
Le parquet de Paris ouvre une enquête préliminaire pour viol par personne ayant autorité dans l'affaire Christophe Girard. Il y a quelques jours dans le New York Times, l'ex-adjoint à la mairie de Paris était accusé d'abus sexuels par un homme de 46 ans. Ce dernier affirmait avoir été entraîné par Monsieur Girard dès leur rencontre en Tunisie quand il avait 15 ans, dans une relation abusive de près de 10 ans, qui lui a laissé selon lui des blessures psychologiques durables. Christophe Girard, qui a été récemment poussé à la démission de son poste d'adjoint à la mairie de Paris pour ses liens avec l'écrivain Gabriel Matzneff, accusé de pédophilie. Arnaud Lagardère s'accroche à la tête de son groupe. Son mandat de gérant est renouvelé pour 4 ans au lieu de 6 en temps normal. Une décision qui intervient moins d'une semaine après la formation d'une alliance entre les deux premiers actionnaires du groupe, Vivendi d'un côté et le fonds d'investissement Amber Capital de l'autre. Une décision en forme de surprise, Anne-Laure Jumet.
Oui, et qui a pour objectif de prendre de court ses rivaux. La question du renouvellement du mandat d'Arnaud Lagardère devait initialement se poser l'année prochaine, mais voilà, l'intéressé en a décidé autrement. Il faut dire que tous les membres du conseil de surveillance lui sont acquis, ce qui a permis ce renouvellement anticipé pour 4 ans. Une décision que le groupe justifie par la nécessité de stabiliser la gouvernance dans une période inédite. Il faut rappeler que le propriétaire de l'éditeur Hachette, des boutiques relais et de médias comme le JDD, Paris Match et Europe 1 subit les assauts de ses deux principaux actionnaires, le fonds d'investissement Amber Capital et Vivendi, le groupe de Vincent Bolloré. Tous deux ont donc récemment fait alliance, une surprise puisque l'homme d'affaires breton avait d'abord affiché son soutien à Arnaud Lagardère. Leur objectif, c'est maintenant d'obtenir une modification du statut de l'entreprise, la commandite par action, qui permet à Arnaud Lagardère d'être seul maître à bord. Si Vincent Bolloré a changé de position, c'est parce que les résultats de Lagardère sont très mauvais et qu'il faut donc initier des changements. Ça, c'est la raison officielle. Mais il se murmure aussi qu'il n'aurait pas accepté l'entrée d'un autre homme dans le jeu, Bernard Arnault, le patron du géant du luxe LVMH, qui a pris départ dans la holding personnel d'Arnaud Lagardère. Le renouvellement anticipé du mandat d'Arnaud Lagardère est donc un nouvel épisode dans cette bataille et il est sanctionné aujourd'hui par le marché. Après avoir perdu plus de 4% à l'ouverture, le titre Lagardère se redresse un peu à la Bourse de Paris, mais cède toujours en ce moment près de 2%.
Une partie d'échecs décryptée par Anne-Laure Jumet. Un mot de la météo de cet après-midi, de la pluie sur une grosse moitié nord du pays, de Lille à Limoges. Grand soleil plus au sud, notamment dans les Pyrénées, sur le pourtour méditerranéen. Attention aux orages dans le Grand Est tout de même. Côté température, elles iront de 21 à Cherbourg jusqu'à 30 à Marseille. C'est la fin de ce journal. Il a été préparé avec Nathalie Lopez à la technique. Jérémy Kaufmann.